Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Je vous téléphone pour savoir si vous aviez une information sur la date de livraison des vaccins. Semaine prochaine, même pour les officines.
Cette pharmacie a commandé 2 flacons d'AstraZeneca mais ne peut toujours pas commencer la vaccination car les doses n'ont pas encore été livrées.
Après les masques, après les tests, la France manque maintenant de vaccins contre le Covid-19. Comme on l'entend dans ce reportage de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, c'était il y a à peine 2 semaines un comble au pays de Pasteur et de Sanofi. On ne va pas revenir sur la polémique d'une vaccination qui avance au compte-gouttes en France, mais la situation oblige à s'interroger sur les manques en matière de souveraineté médicale et sur la façon dont les pouvoirs publics pourront œuvrer pour ramener l'industrie pharmaceutique à la maison.
Ramener la coupe à la maison.
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va voir ce que la France peut faire pour attirer les laboratoires et pourquoi il ne serait pas inutile de s'inspirer de nos voisins belges.
Oui, effectivement, une situation incroyablement paradoxale d'une entreprise devenue stratégique depuis quelques jours alors qu'elle est en redressement judiciaire. En effet, Famar Lyon, c'est son nom, 250 salariés, fabrique depuis des années pour Sanofi le médicament Nivaquine, un antipaludéen à base de chloroquine.
C'était en mars 2020, pendant que la France se confinait, on apprenait, ici sur Europe 1, la mise en redressement judiciaire de la seule usine habilité à fabriquer en France de la chloroquine, médicament contre le paludisme qui allait connaître une notoriété aussi phénoménale que courte. L'entreprise Famar échappera à la fermeture grâce à l'offre de rachat d'un groupe libanais. L'histoire illustre bien les fragilités de l'industrie pharmaceutique française révélées par la crise du Covid et par l'échec de la fabrication d'un vaccin aux couleurs bleu-blanc-rouge pour lutter contre le Covid. Ce secteur industriel a pourtant profité de la pandémie actuelle qui a même conduit beaucoup d'entreprises à augmenter les cadences de fabrication. De fait, constatait récemment le magazine L'Usine Nouvelle, peu d'unités de production pharmaceutique ont fermé en 2020. Les rares restructurations d'ampleur ont été cantonnées à l'arrêt des lignes de production de l'usine du laboratoire Giffrère à Décines dans le Rhône et à la fermeture d'une usine de Boiron à Montrichard, dans le Loir-et-Cher, un bilan embelli notamment par l'investissement de 600 millions d'euros de Sanofi pour la création d'une future usine ultra-moderne pour la fabrication de vaccins dans le Rhône. Catherine Ducruet, vous êtes journaliste aux Échos, vous suivez l'industrie pharmaceutique. Cet investissement important de Sanofi, c'est une première pierre à l'édifice pour les laboratoires installés en France ?
Cet investissement de Sanofi, je pense, n'a malheureusement pas grand-chose à voir avec d'éventuelles incitations gouvernementales, parce que un investissement d'une telle taille, ça ne se décide pas en quelques heures ou en quelques jours, juste pour faire plaisir au président de la République. Ça s'inscrit dans une planification dans la durée. Donc, il y avait eu des déclarations maladroites de la part du patron de Sanofi. Cet investissement devait être annoncé à un moment ou à un autre et ça a été une bonne manière, disons, de sortir par le haut de la polémique autour d'un potentiel vaccin de Sanofi qui n'irait pas en priorité au marché français. Voilà, donc c'est plus comme ça qu'il faut voir les choses, mais cela dit, c'est un investissement qui est bien réel et la France reste un pays où on produit des vaccins.
Justement, quel est le poids aujourd'hui de l'industrie pharmaceutique en France ?
Alors, l'industrie pharmaceutique, c'est quand même une industrie importante en France. Son chiffre d'affaires est de 60 milliards d'euros. Elle emploie quand même 98 500 salariés, dont 30% en Île-de-France. Elle produit aussi en France sur 271 sites. Il y a beaucoup de sites pharmaceutiques en France, peut-être même trop, parce que il y a beaucoup de sites qui sont des petits sites. Mais il faut savoir aussi que plus de la moitié de la production pharmaceutique en France n'est pas faite par les laboratoires qu'on connaît et dont les noms sont sur les boîtes de médicaments. Il y a une part très importante qui est réalisée par des sous-traitants que le grand public ne connaît pas. Ce sont des groupes comme Fareva ou Delpharm qui ont repris beaucoup de sites pharmaceutiques qui appartenaient aux grands groupes avant, dont ceux-ci ont souhaité se dégager parce qu'ils sont souvent beaucoup dégagés de la production. Et donc ces façonniers ou ces sous-traitants produisent beaucoup en France et ce sont eux par exemple qui vont faire la mise en forme et la mise en flacon des vaccins Covid.
La pandémie a vraiment été un révélateur, une prise de conscience de la perte d'autonomie du pays en matière de santé, de médicaments ?
Oui, alors il faut voir que quand même la France a un vrai problème avec son industrie pharmaceutique parce que dans la mesure où les médicaments sont remboursés par la sécurité sociale, c'est donc en fait la sécurité sociale qui achète les médicaments, elle est considérée comme une source de coûts. C'est-à-dire que c'est elle qui contribue au fameux trou de la sécu, comme on dit. Et donc quand il s'agit de le boucher, c'est souvent elle qui est mise à contribution. Donc on a quand même beaucoup fragilisé cette industrie en France. Et donc on est arrivé là sur cette pandémie, on s'est rendu compte qu'en fait ce qui était produit en France, c'était beaucoup des vieux médicaments qui ont quelquefois 18 ou 20 ans d'âge, qui peuvent être des médicaments importants pour traiter les pathologies de tous les jours, mais qui n'assurent pas, disons, une autonomie formidable à la France. Alors, quand on parle d'autonomie, il s'agit pas d'autarcie, c'est-à-dire que ce serait complètement absurde d'imaginer dans une économie mondialisée qu'on va fabriquer en France tout ce dont on a besoin. Ce qui est important, c'est de fabriquer en France des médicaments qui ont suffisamment de valeur pour qu'on puisse ensuite les échanger contre d'autres qui vont être produits dans d'autres pays. Mais dans la mesure où notre production, c'est largement une production traditionnelle, on n'a pas tant de marge de manœuvre que ça. Et on l'a vu même pour les vaccins, c'est pas les vaccins les plus modernes qui sont produits en France. La France n'a pas pris vraiment le virage des médicaments modernes, qui sont les médicaments issus des biotechnologies, qui sont des médicaments de bioproduction. Et en termes de médicaments, on a complètement raté le virage des anticorps monoclonaux, qui sont les produits très utilisés aujourd'hui en cancérologie, dans les maladies rares, dans les maladies inflammatoires. Et Sanofi a une part de responsabilité là-dedans parce que Sanofi, c'est un acteur majeur en France. Et il a mis très longtemps à s'y intéresser et il y est venu beaucoup grâce à son accord avec Regeneron, qui est une entreprise de biotech américaine. Et donc les médicaments qu'ils ont développés ensemble, finalement, ils ont été produits beaucoup aux États-Unis. Par exemple, Dupixent, qui est le produit phare de Sanofi en ce moment contre l'eczéma et l'asthme, eh bien, il est produit essentiellement aux États-Unis et pas en France. Donc, on a un outil de production en France qui a pas mal vieilli.
La prise de conscience, c'est une chose. Il faut maintenant de l'action, si j'ai envie de dire, de la prise de décision. On a parlé de cet investissement de Sanofi, mais quelle est la stratégie du gouvernement pour attirer de nouveaux labos ou en tout cas favoriser le développement de nouveaux produits plus dirigés vers les biotechnologies ?
Il y a un discours qui peut être favorable à l'industrie pharmaceutique, c'est une industrie moderne, c'est une industrie où il y a de l'emploi, c'est une industrie où il y a de la recherche, donc c'est une bonne industrie. Mais à partir du moment où il est question de fixer les prix, ça devient une autre histoire. Les prix des médicaments sont fixés de façon négociée entre l'industrie et les pouvoirs publics et les règles de fixation de ces prix sont renégociées de façon pluriannuelle. Et là, il vient d'y avoir une renégociation. Là, il semble que le gouvernement ait entendu que si on veut pas voir disparaître l'industrie pharmaceutique, il faut faire quelque chose. Donc, il y a toute une série de mesures et de manières de faire qui sont prônées dans la lettre de mission qui a été envoyée au nouveau président du Comité économique des produits de santé, qui est l'instance de fixation des prix. Et il y a eu donc la renégociation de cet accord cadre entre l'industrie et le gouvernement. Et donc, on a un certain nombre de mesures comme proposer quand même des prix minimums pour les produits anciens quand ce sont des produits essentiels pour que et les façonniers et les fabricants de génériques puissent continuer à les produire en France. Ça concerne des produits comme les antihypertenseurs, les produits contre le cholestérol, les antibiotiques, les antidouleurs, enfin tout ce qui est médicaments de base pour soigner la population. Il y a aussi des mesures qui tendent à donner une meilleure rémunération à l'innovation. Donc, les produits innovants, on va essayer de leur donner des prix qui seront plus proches de ce qu'il y a dans les autres pays européens. Maintenant, il va falloir voir comment le juge de paix, qui est le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui est tous les ans à l'automne, comment ces mesures qui sont annoncées vont se confronter à ce qui sera décidé dans ce plan. C'est là qu'on saura si ces intentions se transforment en réalité concrète ou pas.
Oui, Catherine, le prix des médicaments, c'est vraiment ce qui dissuade un laboratoire d'investir en France ?
C'est pas le seul élément. On peut aussi penser à une fiscalité qui soit stable, qui permette aux laboratoires d'avoir de la visibilité dans le temps. Mais c'est vrai que les prix, c'est un élément important. Et puis, c'est un élément sur lequel le gouvernement peut jouer pour essayer d'attirer les laboratoires, c'est-à-dire en liant, par exemple, un bon prix au fait que le laboratoire va investir en France. C'est très difficile pour un patron de filiale d'un groupe étranger de convaincre le siège social qui est de l'autre côté de l'Atlantique ou qui est ailleurs en Europe qu'il faut investir en France quand le chiffre d'affaires de la filiale stagne ou diminue, comme ça a été le cas ces dernières années. En même temps, la plupart des groupes pharmaceutiques ont envie de vendre leurs produits en France parce que la France est un pays qui a une médecine sophistiquée, donc tous les produits innovants peuvent y être déployés de façon satisfaisante. On pense à la cancérologie, on pense aux maladies rares, on pense aux maladies auto-immunes. Ce sont des domaines où il y a de l'innovation et donc des produits a priori chers. La France a parfaitement les moyens, avec la médecine sophistiquée qu'elle a, d'utiliser ces produits. Mais pour ça, il faut que les laboratoires puissent obtenir des prix quand même rémunérateurs. Pas qu'on les compare à des produits qui sont sur le marché depuis 10 ans et qu'on leur propose un prix qui va être pratiquement le même. Ça, c'est pas possible pour un laboratoire pharmaceutique.
La France pourrait prendre en exemple la Belgique. Le plat pays champion du waterzooi de poulet et du lapin à la bière s'est révélé aussi durant la crise du Covid comme l'une des plaques tournantes de la vaccination en Europe, une terre fertile pour l'industrie pharmaceutique. Bonjour Florence Beauchard.
Bonjour.
Vous êtes journaliste aux Echo Weekend. Vous vous êtes rendu dans la commune de Wavre, c'est en Wallonie, en Belgique. Près de 35 000 personnes vivent dans cette ville située au sud-est de Bruxelles, à une trentaine de kilomètres. Alors la ville est connue pour ses parcs d'attractions et pour sa statue de Macast, un petit personnage de bronze espiègle. Il montre ses fesses sur la place de l'hôtel de ville pour symboliser l'esprit espiègle et frondeur des gens du cru. C'est une offrande pour le vaccin du Covid, j'ai presque envie de dire, même si celui-ci sera plutôt inoculé dans le bras. Car Wavre, Florence, c'est pas seulement une aimable cité belge, c'est aussi un haut lieu de la fabrication de vaccins en Europe.
C'est le plus grand centre mondial de fabrication de vaccins. Il appartient aux Britanniques GlaxoSmithKline. C'est aujourd'hui une cinquantaine de bâtiments répartis sur l'équivalent de 70 terrains de foot. Je peux vous dire que pour arriver à pénétrer dans cette enceinte, c'est un peu long. Il faut badger tenter plus. Il y a des tourniquets de sécurité tous les 2 mètres. Et puis, on rentre pas comme ça sur les lignes de production. Elles sont visibles seulement depuis des baies vitrées. Alors, on voit des cuves, des tuyaux, des vannes. Ça ressemble un peu à la cuisine. En fait, il faut à peu près 2 ans. Pour mener à bien la fabrication d'un vaccin, sachant que 70% du temps est consacré à des contrôles de qualité répétés.
C'est une ville dans la ville, c'est ce que vous m'expliquiez, un fornox du vaccin, mais Qu'est-ce qu'on y fabrique comme produit ?
Alors, on y fabrique une trentaine de vaccins différents, dont la polio, le rotavirus, tétanos, coqueluche. En volume, ça fait près de 2 millions de doses par jour qui sortent des lignes de production. Et les 3/4 sont exportés, vu la taille limitée du marché belge. Le pays ne compte qu'un peu plus de 11 millions d'habitants. C'est un petit peu moins que l'Île-de-France. Et cette année, le site devrait également produire un des vaccins du Covid, un des vaccins de cette technologie inédite du ARN messager, pour l'allemand CureVac. Il compte en produire à peu près une centaine de millions de doses. Et puis, peut-être même la génération suivante, parce qu'il a conclu un accord avec CureVac dans ce domaine.
À partir de quand, on a une idée de quand il pourra entamer la fabrication ?
À la fabrication, là, c'est ce printemps. Le vaccin de CureVac est donc la dernière ligne droite dans les phases 3. Il y a des gens qui spéculaient sur mai. Mais là, par exemple, ils commencent déjà à produire avant même. Ils ont reçu des premiers lots d'antigènes, parce qu'en fait, ils vont s'occuper juste de la formulation et du conditionnement du vaccin.
Vous le disiez, l'usine appartient aux Britanniques GlaxoSmithKline, mais ce n'est pas le seul fabricant de vaccins présent en Belgique.
Non, du tout. Il y a l'américain Pfizer, par exemple, qui a choisi le site flamand de Pürth, un peu plus haut, un peu plus au nord, pour fabriquer en masse les vaccins Covid de son partenaire allemand BioNTech, non seulement pour l'Europe, mais aussi les pays du Golfe. Et en Wallonie, comme en Flandre, on trouve une multitude de sous-traitants de cette industrie, dont Thermo Fisher, qui a fait parler de lui parce que le site de CNF produit le vecteur viral du vaccin controversé d'AstraZeneca. Et à Charleroi, un peu plus loin, il y a Universal, c'est une jeune société qui a développé une technologie de production low cost pour les vaccins et qui est testée aujourd'hui avec succès pour le Covid également.
C'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de vaccins, on a l'impression que ça intéresse tout le monde. Puis on veut dire, plus c'est lent, plus ça intéresse le monde. Mais le succès de la Belgique en matière pharmaceutique ne s'arrête pas qu'au vaccin. Le pays a développé d'autres spécialités ?
Tout à fait, parce que l'immunologie, bien sûr, ça reste sa grande spécialité, mais il y a aussi la thérapie génique et la thérapie cellulaire. Il y a aussi toute une partie medtech, donc des dispositifs médicaux. Et grâce à un réseau hospitalier de qualité, le PLAPI, c'est quand même le numéro 2 en Europe en nombre d'essais cliniques par habitant.
On voit effectivement que c'est devenu une industrie prépondérante, très importante en Belgique. Mais comment est-ce que le pays est devenu un champion de la pharmacie en Europe ?
En fait, comme la France, le pays a une longue tradition de chimie-pharmacie. On est Solvay, Janssen, etc. Et comme notre pays, il a bénéficié également de l'implantation de géants anglo-saxons de la pharma dans les années 50, comme Pfizer, Johnson & Johnson ou encore SmithKline, qui est un des ancêtres du champion GSK. Alors parmi ces grands noms de la Big Pharma, on revient à GSK, qui a joué un rôle non négligeable grâce à un certain Jean Stéphane. Il est rentré d'abord comme ingénieur de recherche dans la boîte, puis il a progressivement grimpé les échelons pour se retrouver directeur général dans les années 90. Et c'est lui vraiment qui a réussi à convaincre les autorités, la maison mère, de faire de la Belgique le cœur de son expertise en vaccins, à la fois côté R&D et production. Quand la Wallonie a voulu relancer son industrie après le déclin de la sidérurgie qui avait fait sa gloire au 19e siècle, eh bien, ce Jean Stéphane, il a soutenu la création du pôle de compétitivité BioWin et l'application d'un plan dit Marshall de soutien à la création de biotech dans la région, qui passait par la multiplication d'accords entre le groupe et les universités notamment, mais bien sûr par tout un dispositif de soutien au niveau régional, local et national. Et derrière ce plan, il y avait aussi un certain Jean-Claude Marcourt, qui est resté pendant 3 législatures ministre de l'économie et de la recherche. Il a beaucoup œuvré aussi pour le soutien de cette industrie. Et quand Jean-Stéphane a pris sa retraite en 2012 de GSK, en fait, bien sûr, il ne s'est pas du tout arrêté. Aujourd'hui, il préside le conseil d'administration de 6 biotech. Et puis, il y a bien d'autres anciens de GSK, mais pas seulement. D'autres grands laboratoires comme le belge UCB, Johnson & Johnson ou Lex Genzyme aujourd'hui, détenu par Sanofi, qui exercent ce rôle un peu de mentor pour tout un vivier de sociétés en Belgique. C'est un petit monde où tout le monde se connaît. Du coup, les décisions, évidemment, sont prises plus rapidement. Et c'est un atout aussi qui a attiré plus d'une biotech étrangère. J'ai rencontré PDC Line, aussi il y a des Israéliens, des Autrichiens. En Flandre, il y a aussi eu la même dynamique, mais ça remonte à plus loin. C'est quand un certain Luc van den Brand, un politicien, a fondé l'Institut de recherche en sciences de la VIB, qui voulait favoriser le transfert de l'innovation dans le secteur privé. Et cette région, par exemple, on trouve des grands succès comme Ablinks, qui a été vendu 4 milliards il n'y a pas très longtemps à Sanofi, ou Galapagos, qui est coté depuis 6 ans sur le Nasdaq.
On voit bien l'importance de l'histoire aussi dans la constitution de ce tissu pharmaceutique. Mais ce qu'on ressent dans ce que vous nous dites, Florence, c'est qu'il y a une implication vraiment forte de tout l'écosystème, que ce soit politique, économique et universitaire.
Oui, Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment notoire. Et plus, évidemment, des avantages fiscaux non négligeables, notamment côté recherche. Ça ressemble un peu à notre crédit impôt recherche. Mais il y a aussi, ils ont réussi à attirer des fonds étrangers, des fonds d'investissement américains, asiatiques, des Pays-Bas. Et puis aussi, côté industrie, par exemple, des accords avec des grands. Il y a la petite société Insize qui a développé un accord avec Pfizer tout récemment dans la polyarthrite rhumatoïde, ou la fondation Gates et ainsi que George Soros. Ils ont pris aussi l'an dernier une participation dans Universal, dont je vous parlais, qui a mis au point une technique low cost de fabrication des vaccins.
Un natte westwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land.
Ah, le plat pays de Jacques Brel. Si j'ai bien compris aussi, Florence, la géographie a eu aussi son importance?
Tout à fait. Mais je vous rappelle que notamment, non seulement c'est au carrefour de l'Europe, mais ils ont un super port, le port d'Anvers, qui est un des plus grands ports d'Europe, et des aéroports qui ont été moteurs dans l'établissement d'une certification internationale sur le transport justement géographique des produits biopharmaceutiques. Liège, pendant la pandémie, là, c'est devenu le hub européen de l'OMS. Et ils ont été consacrés le meilleur aéroport cargo en 2020. Donc c'est dire que tout ce qui est logistique est aussi très, très développé.
Et on voit que la réussite d'une industrie, hein, ça tient souvent à un ensemble de choses hein, qui vont permettre là aussi son développement et ses succès. Quel impact cette stratégie a-t-elle eu sur l'emploi dans la région?
En termes d'emploi, cette stratégie a eu un impact significatif. Au total, il y a près de 39 000 personnes qui travaillent dans le secteur, dont 5 400 chercheurs. Et si on ajoute les emplois directs, on arrive à un total de 120 000. Et ces chiffres augmentent d'année en année, en raison de l'augmentation à la fois des investissements industriels et de la R&D. Par exemple, en 2019, un montant record de 3,8 milliards a été investi en recherche, soit une croissance de 50% sur 5 ans.
On le voit donc un succès industriel, un succès aussi en termes d'emploi, mais la Belgique ne veut pas se reposer sur ses lauriers?
Non, certainement pas. Il ne faut pas relâcher les efforts parce que le danger qui guette aujourd'hui les sociétés qui veulent grandir, c'est de ne pas trouver les compétences sur place. Donc, ils mettent en place de nouvelles formations et lancent de nouveaux chantier pour éventuellement combler aussi les maillons manquants de la chaîne de bioproduction qu'ils veulent maintenir sur place.
Catherine Ducruet, je reviens vers vous. L'exemple belge, est-ce qu'il peut être instructif pour les pouvoirs publics en France?
Oui, certainement. Là aussi, concernant tout ce qui est favoriser l'essor d'une industrie des biotech, puisque aujourd'hui l'innovation elle est beaucoup dans les biotech. Oui, l'exemple belge est intéressant, même si là encore c'est triste à dire, mais on sait très bien ce qu'on devrait faire depuis longtemps. On compte pas les gouvernements qui ont envoyé des missions en Californie pour savoir comment on devait faire pour développer l'industrie biotech. Il y a d'ailleurs maintenant beaucoup d'aide pour aider à la création de sociétés de biotech en France. Là où les problèmes commencent pour ces sociétés, c'est quand elles ont besoin davantage d'argent pour démarrer des essais cliniques, parce que il n'y a pas beaucoup de capital risque spécialisé capable d'investir dans ces entreprises. Il n'y a pas de marché équivalent au Nasdaq, mais ça c'est vrai aussi pour les sociétés belges. Et il n'y a pas en France non plus beaucoup soit de family office, c'est-à-dire c'est des fonds qui sont créés par des industriels qui ont réussi dans d'autres domaines. Il n'y a pas non plus beaucoup de fonds suscités par l'industrie pharmaceutique elle-même. Par exemple, Sanofi n'a pas joué le rôle qu'ont joué les Roche ou les Novartis, par exemple, en Suisse. Ils n'ont quasiment jamais investi ou passé des accords de collaboration avec des biotech françaises. Et pourtant, ce n'est pas la qualité de l'industrie biotech française qui est en jeu, puisque, à l'inverse, on voit que des groupes comme AstraZeneca, comme Pfizer, comme Novartis investissent dans les biotech françaises, en rachètent ou passent des accords avec ces des entreprises. Donc là, Sanofi n'a pas joué le rôle qu'il aurait pu jouer de soutien à cette industrie. Bon, et puis encore une fois, les biotech, c'est très bien. Tant que ce sont des start-up, c'est moderne, c'est innovant, c'est formidable. Et puis, dès le jour où elles arrivent avec un produit et qu'elles ont besoin de le vendre, eh bien là, tout d'un coup, on en revient à la problématique des big pharma, c'est-à-dire, c'est une source de coûts, leurs produits sont toujours trop chers. Donc, tant qu'on ne sortira pas de cette schizophrénie, on continuera à avoir un problème aussi avec la biotech en France. Alors, peut-être que cette pandémie aura au moins un effet positif qui serait de faire bouger ça.
Merci Catherine Ducruet, spécialiste de l'industrie pharmaceutique aux Échos. Merci Florence Beauchard de la rédaction des Échos Week-end, tous les vendredis en kiosque avec les Échos. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Pour retrouver les analyses, les enquêtes et les décryptages des Échos, rendez-vous sur leséchos.fr.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.